Il est 19h. Le journal vous est présenté par Olivier Bénis. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Reconfiner le week-end, couvre-feu à 19h en semaine, c'est la proposition des médecins libéraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils lancent un cri d'alarme aujourd'hui, estimant que la situation dans les hôpitaux s'annonce catastrophique en se contentant des mesures actuelles. Mesures plus restrictives aussi en Espagne, où le Premier ministre a décrété l'état d'urgence. Nous ferons le point sur la situation chez notre voisin. L'appel au boycott de produits français dans plusieurs pays contre une politique jugée hostile aux musulmans. Nous irons en Tunisie où l'opinion est divisée sur la question. Nous irons également à New York où les habitants font la queue parfois plusieurs heures pour voter par anticipation en attendant la présidentielle du 3 novembre. Vers 19h15, nous parlerons sport avec Alexandre Berthaud. L'occasion de revenir notamment sur le crépuscule de Christopher Froome qui n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment sur la Vuelta. Enfin, on terminera ce journal par l'agenda des événements à venir la semaine prochaine dont l'examen au Sénat du projet de loi réautorisant l'utilisation de néonicotinoïdes et l'arrivée des tests antigéniques rapides dans les aéroports. Tout ça, ce sera avant les petits bateaux de Noël Bréham à 19h30 avec notamment cette question.
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi ça pète les ampoules.
Eh bien, en attendant, bienvenue dans le journal de 19h.
France Inter.
Depuis plusieurs jours, la France se divise en deux catégories. Ceux qui pensent qu'on en fait trop dans la lutte contre le coronavirus ou que la méthode n'est pas la bonne. Et ceux qui pensent qu'on n'en fait pas assez, qu'on ne prend pas assez la mesure de l'urgence. C'est le cas des médecins libéraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement touchés ces derniers jours. L'Union régionale des professionnels de santé libéraux, qui représente 14 000 médecins, s'inquiète des niveaux records atteints dernièrement. Avec plus de 40 000 nouveaux cas chaque jour, des hôpitaux saturés ou en passe de l'être, ils estiment que la situation est déjà hors de contrôle et qu'il faut réagir immédiatement, comme l'explique leur président, le docteur Pierre-Jean Ternamian, radiologue à Lyon.
Si on veut éviter que la France soit obligée de se reconfiner avec les conséquences que l'on connaît tous et qu'on redoute, c'est sous 48 heures une décision courageuse. On confine à partir du week-end prochain et on met un couvre-feu dès 19h lundi soir. Il n'y a pas de miracle. C'est la seule manière d'enrayer ça. Donc tout le monde est équipé de masques, tout le monde est au travail, tout le monde est à l'école, mais la règle c'est le confinement dans la famille. Et il n'y a pas de dîner à 6 personnes, il n'y a rien. Et on a l'exemple qui a marché, c'est la Guyane. La Guyane a avancé à l'époque son couvre-feu au moment où ça échappait à tout contrôle. Ils sont passés à 17h, on a cassé la courbe. On a les exemples, donc qu'on nous sorte pas l'argument, faut attendre de voir si ça marche. Sinon je donne pas cher, on va dire, du chiffre qui nous attend, c'est-à-dire 40 000 morts très vite.
Propos recueillis par Delphine Evenou, un sujet à retrouver en détail sur notre site franceinter.fr. État d'urgence sanitaire et couvre-feu aussi chez nos voisins espagnols. Le Premier ministre Pedro Sanchez a ouvert ce dimanche la voie à des mesures de restriction supplémentaires dans le pays pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Cet état d'alerte doit durer 6 mois sur l'ensemble du territoire. Il faut dire que le pays a dépassé cette semaine le cap du million de cas recensés. Et selon Sanchez, le nombre réel serait 3 fois plus élevé. Marie-Hélène Ballestero.
Comme prévu, le chef du gouvernement espagnol a annoncé sur un ton grave la nouvelle que les Espagnols présupposaient.
La situation que nous vivons est extrême. Par conséquent, nous adoptons de nouveau l'état d'urgence car c'est l'outil le plus efficace pour infléchir la courbe des cas de contagion et combattre le virus. Nous le savons, la bataille va être dure, mais avec de la discipline sociale, la résistance, l'unité et un esprit de victoire, nous allons de nouveau réussir.
Contrairement au mois de mars, cet état d'urgence sanitaire n'a pas pour objectif de décréter un confinement général dans tout le pays, ni de centraliser les politiques de santé. Les régions espagnoles compétentes en la matière vont donc poursuivre leur gestion. La majorité d'entre elles avait d'ailleurs réclamé ces derniers jours au gouvernement central de décréter cet état d'urgence qui leur permettra désormais de disposer de ce parapluie légal pour adopter les mesures de restriction à la mobilité de la population sans dépendre de la décision des tribunaux de justice régionaux. Par ailleurs, l'exécutif de Pedro Sanchez a proclamé un couvre-feu nocturne pour tout le pays, sauf les îles Canaries, allant de 23h à 6h du matin, avec la possibilité pour les régions d'avancer ou de retarder d'1 heure. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Et puis notez qu'après le président polonais hier, c'est au tour du premier ministre bulgare d'être testé positif à la Covid-19 aujourd'hui. Le dernier d'une liste qui commence à être longue de dirigeants internationaux contaminés après Donald Trump, Boris Johnson ou Jair Bolsonaro. C'est un profil qui rappelle forcément celui de l'assassin de Samuel Paty le 16 octobre dernier. Un jeune homme de 22 ans, d'origine tchétchène, né en Russie, a été mis en examen ce dimanche pour apologie d'actes terroristes sur les réseaux sociaux avant d'être placé en détention. Après la mort de l'enseignant, il a été repéré par une veille des services spécialisés des forces de sécurité intérieure du Loir-et-Cher, alors qu'il tenait des propos haineux selon le communiqué du parquet. Des propos tenus sous pseudonyme, ce qui ne l'a pas empêché d'être identifié en une semaine. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
De nombreuses armes et couteaux ont été retrouvés donc au domicile du suspect et il avait déjà été condamné pour des faits similaires.
Oui, c'était vendredi matin. Les gendarmes sont arrivés en force au domicile de cet homme. Ils tombent effectivement sur des armes qui vont bien au-delà de l'attirail classique d'un chasseur. En revanche, pas de gros calibre ou d'armes automatiques de type Kalachnikov. À ce moment-là, les forces d'intervention et les enquêteurs savent parfaitement qui est leur cible, même s'ils ne s'attendaient pas à tomber sur un tel arsenal. L'homme est âgé, vous l'avez dit, de 22 ans, déjà condamné en 2017 pour apologie de terrorisme. Mais il était mineur, de nationalité russe, originaire de Tchétchénie. Il bénéficie depuis sa majorité d'un permis de résident en France. Là, il s'est fait repérer effectivement cette fois par une cyberpatrouille de la gendarmerie. Il avait créé un compte avec un profil anonyme, mais sa localisation aura donc été très rapide avec la coopération des services de renseignement territorial. Lors de sa garde à vue, ce jeune homme a nié toute forme de radicalisation, selon le procureur de Blois, qui a ouvert cet après-midi une information judiciaire avec désignation d'un juge d'instruction. L'objectif est de tenter de déterminer dans les jours, les semaines qui viennent, des liens éventuels avec une organisation terroriste.
Merci beaucoup Emmanuel Leclerc. Recep Tayyip Erdogan persiste et signe pour lui. Emmanuel Macron devrait se faire soigner. Alors aucun rapport avec le coronavirus, mais bien avec la santé mentale supposée du président français qui semble beaucoup inquiéter son homologue turc. Paris a de son côté rappelé son ambassadeur sur place. Une escalade qui s'inscrit dans un contexte plus large de méfiance envers la France dans les pays musulmans, avec notamment des manifestations, des appels au boycott de produits français pour protester contre la future loi sur le séparatisme, la stigmatisation des musulmans ou le soutien aux caricatures de Mahomet. Suffisamment pour inquiéter le Quai d'Orsay qui a publié tout à l'heure un communiqué demandant l'arrêt de ces appels. Mais on trouve aussi à l'étranger la situation inverse. En Tunisie, par exemple, pas de haro sur la politique française, même si les Tunisiens s'inquiètent eux aussi du climat dans notre pays. Maureen Mercier.
Ici, ceux qui prônent le boycott sur les réseaux sociaux sont souvent moqués. Tu veux boycotter les produits français alors que tu ne rêves que de traverser la Méditerranée et de vivre dans le pays que tu veux condamner. Les Tunisiens le rappellent, nous sommes nous-mêmes victimes d'attentats, nous sommes les premiers à lutter contre l'islam radical, résume la plupart. Une quarantaine de personnalités de la société civile dénoncent d'ailleurs dans une pétition les propos d'un député islamiste qui a justifié sur les réseaux sociaux le meurtre du professeur Samuel Paty. Soutenir cette décapitation est une forme d'assassinat indirect, écrivent les intellectuels. Pas de boycott, donc. Les Tunisiens demandent par contre à la France de faire preuve de la même sévérité lorsque des musulmans sont touchés. Ici, c'est le relatif silence médiatique dans les médias français après l'attaque des deux femmes voilées sur le Champ de Mars qui a particulièrement choqué. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
En Biélorussie, l'opposition qui vient tout juste de recevoir le prix Sakharov augmente la pression sur le président Loukachenko. De nouvelles manifestations ont eu lieu cet après-midi. De leur côté, les autorités continuent leur politique de répression. Le mouvement demande au chef d'État de quitter le pouvoir, sinon elle lancera une grève générale à partir de demain, Nadine Epstein.
Ils étaient des dizaines de milliers, 30 000 personnes, selon l'agence de presse russe Interfax, à défiler dans les rues de Minsk aujourd'hui. Une cinquantaine de manifestants ont été arrêtés, les réseaux téléphoniques de la capitale ont été perturbés et des témoins racontent avoir entendu des sons qui ressemblaient à des grenades. L'opposition au président Loukachenko, qui conteste les résultats de sa réélection à la tête de l'État en août dernier, ne désarme pas malgré la répression. Les autorités biélorusses ont autorisé les forces de l'ordre à utiliser des armes létales contre les protestataires en cas de besoin. La figure de l'opposition, Svetlana Tsikhanouskaya, a elle lancé un ultimatum au président biélorusse, où il quitte le pouvoir maintenant, où une grève générale sera lancée dès demain, ce qui signifierait la fermeture des entreprises et des magasins d'État et des routes bloquées. Mais celui qui dirige le pays depuis 26 ans entend rester au pouvoir, et pour ce faire, Alexander Loukachenko s'est rapproché de son traditionnel allié, la Russie. Les deux pays ont déclaré, je cite, être prêts à répondre conjointement froidement aux menaces qui émergent. Fin de citation.
J-9 avant la présidentielle aux États-Unis et une campagne qui s'accélère. Donald Trump en particulier est en plein sprint. Hier, il a mené 3 meetings dans 3 États différents après avoir voté par anticipation en Floride. Près de 60 millions d'Américains ont, comme lui, déjà voté. C'est un record. Un chiffre qui s'explique par la situation sanitaire, bien sûr, mais qui laisse quand même entrevoir une forte participation à la fois dans les États clés, mais aussi dans ceux où les enjeux sont moindres. Par exemple à New York, où Loïc Loury a visité quelques bureaux de vote pris d'assaut.
Des centaines de mètres de queue à l'ombre du Madison Square Garden et des heures d'attente pour glisser un bulletin dans l'urne. Miguel espérait voter pour la première fois, mais il reviendra finalement un autre jour.
La queue fait tout le tour du bloc. On a tenté notre chance, mais c'est trop. Les gens attendent 4-5 heures pour voter. C'est super, j'espère qu'ils voteront pour le bon.
Kamala et Oncle Joe, les voilà les bons candidats selon une majorité de New-Yorkais bien décidés à bouter Donald Trump hors du bureau ovale. Car si le Covid explique en partie cette mobilisation anticipée, l'opposition à Donald Trump en est aussi responsable. Mike est bon dernier de l'une des files d'attente.
Les New-Yorkais sont des gens très passionnés, notamment contre Donald Trump. En 2016, à son propre bureau de vote, il a été hué. Normalement, ça n'arrive pas, être hué à son propre bureau de vote.
Mais si la victoire est acquise à New York, pourquoi faire 4 heures de queue comme Leslie ?
Il y a toujours le vote populaire, c'est important. J'aurais pu venir demain. La file aurait été sans doute plus courte, mais je suis impatiente de voter, alors ça ne me dérange pas.
Des électeurs gonflés à bloc ici, mais aussi dans les états clés de cette présidentielle. Pas vraiment un bon signe pour Donald Trump. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et on le rappelle, l'élection présidentielle, c'est le 3 novembre prochain aux États-Unis. On en parlait au début de ce journal. Le couvre-feu s'applique maintenant pour les 2/3 des Français, avec des conséquences assez lourdes pour certains pans de l'économie, notamment le monde du divertissement sous toutes ses formes, avec aussi parfois à la clé des situations assez étonnantes. Je vous propose un petit tour dans les coulisses du Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien, l'un des symboles forts du monde de la nuit dans la capitale. Sauf qu'évidemment, être un haut lieu de passage nocturne quand tout le monde doit être chez soi à 21h, ça implique quelques adaptations. Et désormais, les shows ont lieu en pleine journée, le week-end, à 15h30 et 18h. Alors qu'est-ce que ça change de danser quand le soleil est encore là ? Olivia Cohen est allée soulever le rideau rouge pour en savoir plus.
Une fois maquillée, faucille, perruque à franges, lèvres rouges, on ne voit pas la différence, nous confie Kika Revolver, c'est son nom de scène.
Tu sais, il n'y a pas de fenêtre, pas d'horloge dans les loges, c'est comme dans les casinos.
Bonsoir mesdemoiselles, sur scène dans 25 minutes s'il vous plaît.
On ne sait pas quelle heure il est en fait, donc moi je me dis que ça y est, on est ce soir, c'est fou mais on demande à n'importe quelle fille, elles vont te répondre ce soir, pas cet après-midi.
Ce soir, la carte.
Dans le public, les fauteuils de velours rouge accueillent une centaine de spectateurs. La jauge est divisée de moitié. Loredana a offert sa place à son amie Charlotte, cadeau d'anniversaire, sauf que c'était prévu un vendredi soir.
Et là, je trouve qu'on perd un peu l'ambiance de sa soirée, d'une soirée cool, tout ça, entre amis. Et là, du coup, on n'a plus la même ambiance.
De 15 représentations par semaine, le Crazy Horse est passé à 4, à 15h30 et 18h le week-end. Grâce au chômage partiel, les danseuses n'ont pas de baisse de salaire et elles terminent leur journée plus tôt. Bambi Splisplash passe donc ses samedis soirs sous la couette et elle a pris très vite le pli.
J'en profite, oui, pour décompresser, me mettre dans le lit, faire un petit massage, regarder une petite série.
En temps normal, certaines ne s'endorment pas avant 3h du matin. Là, le deuxième spectacle se termine à 19h30. Les Crazy Girls seront donc chez elles avant le couvre-feu.
Le reportage d'Olivia Cohen de France Bleu Paris, 19h13 sur France Inter, l'heure de danser, de tournoyer jusqu'au journal des sports. Et les sports, on en parle avec vous, Alexandre Berthaud, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Et on commence avec Lewis Hamilton, tout en haut de l'Olympe des pilotes de Formule 1. Le Britannique a battu aujourd'hui le record de victoire en Grand Prix de Michael Schumacher.
Ah oui, ce Grand Prix du Portugal restera dans l'histoire de la Formule 1. On a vu cet après-midi un homme dépasser une légende et donc le devenir. Lewis Hamilton n'a pas tremblé, il a dominé ses adversaires du casque et du volant. Le Britannique a remporté sa 92e victoire en Grand Prix, une de plus que Schumi.
Je n'aurais jamais pu rêver de ce que j'ai accompli où je suis aujourd'hui. Je n'avais pas de boule de cristal quand j'ai signé avec cette écurie pour savoir ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, on en est là et je profite de chaque journée que nous passons ensemble dans cette écurie. C'est un jour béni pour moi. 92 victoires en Formule 1, c'est incroyable.
Et à la fin de la saison, Hamilton égalera, sauf catastrophe, le record de Schumacher de championnat du monde de Formule 1 remporté avec 7 trophées, une longévité impressionnante selon un connaisseur, l'ex-pilote français Jacques Lafitte, 6 victoires en Grand Prix sur 176 disputées.
C'est invraisemblable cette domination de Mercedes. Elle a déjà existé, je vous l'ai dit, avec McLaren, du temps de Prost Senna. Après, il y a eu Schumacher avec Ferrari. On pensait que c'était impossible de rattraper tous les succès qu'a vu Michael Schumacher. Vous avez vu, Hamilton, lui, l'a fait très bien avec une super équipe. Travailler jour et nuit, nuit et jour, il faut s'occuper du team. Je crois que Hamilton est un gros travailleur et donc voilà, le résultat, il arrive vite. Il faut beaucoup de talent, d'abord comme dans tous les sports, puis après le travail.
Lewis Hamilton au sommet, il va pouvoir encore améliorer ce record de victoire en Grand Prix cette saison au volant de sa Mercedes. Puisqu'il reste 5 Grands Prix à disputer, il pourra faire encore résonner l'hymne britannique. God Save the Queen, du circuit de Portimao jusqu'au centre-ville de Milan ce dimanche. C'était le tube du week-end. En Lombardie était jugé l'arrivée du Giro, le Tour d'Italie cycliste. Et pour la première fois dans l'histoire, deux coureurs étaient dans la même seconde avant la dernière étape d'un grand tour. C'est un Britannique qui a gagné, Taio Gegenhardt, devant Jay Hindley. L'Australien qui avait pourtant 86 centièmes d'avance, alors ce n'est pas grand-chose avant cette dernière étape. Mais après les 15 700 km du contre-la-montre, Taio, par KO, a remporté le Giro, 39 secondes devant Hindley. Taio Gegenhardt, qui avait débuté ce Tour d'Italie en tant qu'équipier de Geraint Thomas, contraint à l'abandon, qui se retrouve finalement avec le maillot rose final. À noter la victoire aussi d'Arnaud Démare, le Français au classement par points, le maillot cyclamen ramené à la maison.
On voit que tout va très très vite en cyclisme, Alexandre, et ce n'est pas Christopher Froome qui dira le contraire.
Oui, en 2017, il remportait son 4e Tour de France. On se demandait s'il allait égaler le record de 5 victoires, voire le dépasser. Il ne l'a pas fait et petit à petit, le champion a décliné. En ce moment, il dispute la Vuelta, le Tour d'Espagne, où Froome n'est plus que l'ombre de lui-même, Fanny Lechevestrier.
Oui, Chris Froome, qui en 2016 avait perdu ici même la Vuelta au profit de Nairo Quintana, pourrait bien avoir aujourd'hui abandonné tout espoir de retrouver un jour son niveau, celui d'avant son terrible accident sur le Dauphiné il y a un an et demi, lâché dès que la route s'élève, finissant presque anonyme, sans aucun coéquipier à ses côtés, sans aucun membre de son équipe pour l'attendre, à plus de 17 minutes des meilleurs, comme à chaque étape de montagne finalement. Pourtant, Froome, envers et contre tout, veut continuer à croire en des jours meilleurs.
Vous savez, c'est déjà irréel d'être là, de disputer à nouveau un grand tour après ce qui m'est arrivé et l'état dans lequel j'étais. Et puis malgré tout, j'ai plutôt de bonnes sensations dans les jambes, j'ai confiance. Je suis sûr que je suis sur la bonne voie pour retrouver mon meilleur niveau. Être sur la Vuelta, c'était vraiment important pour moi, pour préparer au mieux la saison prochaine. La saison prochaine, où à 36 ans, il rêve toujours de remporter un 5e Tour de France avec sa nouvelle équipe, Israel Startup Nation. En attendant, paradoxalement, le Britannique, si décrié quand il était au sommet, n'a sans doute jamais autant forcé l'admiration. De par son caractère, n'a rien lâché. Et ce sourire, dont il ne se départit jamais, quand inlassablement, on lui demande à quoi bon continuer dans ces conditions.
Fanny Lechevestrier sur la Vuelta, où il y a eu un changement de leader aujourd'hui. Primoz Roglic a été détrôné au sommet du classement général par l'équatorien Richard Carapaz. À l'issue de la 6e étape, on arrivait à Formigal, une étape remportée par Ion Izagirre. Après la victoire convaincante du 15 de France masculin hier contre le Pays de Galles, 38-21, les féminines jouaient en Écosse pour le tournoi des 6 nations cet après-midi et elles n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 13 partout, ce qui offre la victoire du tournoi à l'Angleterre. En Ligue 1, changement de leader et ça y est, le PSG passe devant. Paris a battu Dijon 4-0 hier soir et profite du match nul en cette fin d'après-midi de Lille à Nice, un partout. Du coup, le PSG reprend sa place habituelle, si on peut dire, celle de leader. À 21h ce soir, Lyon reçoit Monaco.
Le football français qui a rendu hommage aussi à Bruno Martini ce week-end.
Oui, l'ancien gardien international décédé cette semaine. On portait des t-shirts noirs à Auxerre hier soir, un de ses anciens clubs. Cet après-midi, c'est à Montpellier où il a fini sa carrière qu'on lui rendait hommage, pas dans le jeu malheureusement, avec une lourde défaite 4-0 contre Reims, mais autour du terrain, l'ambiance était lourde, Jean Saint-Marc.
Dans le monde du football, tout le monde a des ennemis, mais pas Bruno Martini. C'est ce qu'affirme en tout cas un bon connaisseur du MHSC. L'ancien gardien était devenu le directeur adjoint du centre de formation. Il s'occupait principalement de la scolarité des jeunes footballeurs. Les supporters n'ont pas pu lui dire adieu. Le match contre Reims était donc à huis clos. Les ultras avaient tout de même accroché une banderole « Ciao Bruno ». Les joueurs qui portaient un brassard noir auraient aimé le saluer avec une victoire. C'est raté et c'est une vraie déception pour l'entraîneur adjoint Pascal Baïs.
C'est très pénible. Ce soir, on a perdu 4-0. J'en suis désolé, mais demain, on sera dans un autre endroit. Et c'est pas la même, quoi. Donc, on m'a relativisé.
Les obsèques de Bruno Martini auront lieu demain matin à la Grande Motte, en petit comité. Mais tous les dirigeants montpelliérains seront là. Bruno Martini disait qu'il leur devait beaucoup. La famille Nicolin l'a embauché quand il s'est retrouvé au chômage en 2013, après avoir quitté la Fédération française de football. « Ils m'ont rendu ma dignité », avait-il déclaré dans une interview.
Jean Saint-Marc à Montpellier pour France Inter. On passe au long format, Olivier.
Et on y va même à la voile, tenez. Allez, direction le village départ du Vendée Globe. La course s'élance dans deux semaines, tout juste un tour du monde à la voile, sans escale, en solitaire, c'est le concept. Ça se prépare pendant plusieurs années pour les skippers. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils vivent un peu dans la crainte, Alexandre.
Oui, dans la crainte du coronavirus. C'est pas très original. Ils seront testés deux jours avant le départ tant attendu. Et s'ils sont positifs, pas le choix, ils resteront à quai. 4 ans de plus à attendre, forcément, au Sable d'Olonne. L'inquiétude est énorme. Reportage de Jérôme Val.
On met le masque à la main ?
Je mets. Un Vendée Globe à l'ère de la Covid, c'est un public tenu à distance des bateaux. Ce sont aussi ses concurrents, tous masqués.
C'est plus compliqué de se rendre compte des sourires ou des visages des gens.
Mais ce qui les inquiète avant même d'affronter les tempêtes, c'est l'ultime test PCR le 6 novembre, deux jours avant le grand départ, source d'angoisse pour beaucoup, comme l'Italien Giancarlo Pedotti qui part pour son premier tour du monde.
Oui, ça me perturbe, bien évidemment, ça m'inquiète. Après, c'est une chose que je peux contrôler jusqu'à un certain limite. Bah moi, je pense que pour faire simple, j'avais les frigos pleins à 15 jours de départ de la course. Une semaine avant, je m'enfermais dans ma petite maisonnette.
S'isoler pour éviter les contacts et ruiner un rêve, car la règle est claire, un test positif et le concurrent reste à quai. Un scénario qui serait cruel, le Vendée Globe est une épreuve qui se tient tous les 4 ans, 4 ans d'efforts pour arriver à prendre le départ.
La ligne est ouverte 10 jours après le départ, pour des raisons médicales aussi.
Jacques Carès est le directeur de la course.
Quelqu'un qui malheureusement serait positif la veille du départ ne part pas. Par contre, il sera dans l'obligation d'avoir un second test quelques jours après. Ça, c'est le médecin de course qui prendra la décision. Si effectivement le test se révèle négatif quelques jours après, la possibilité de le faire repartir dans le délai des 10 jours.
Le spectre du coronavirus planera aussi en mer. Les concurrents solitaires embarqueront du matériel médical pour diagnostiquer d'éventuels symptômes, comme le détaille le médecin Laure Jacolot.
Ils vont embarquer avec eux un tensiomètre et puis un oxymètre qui peut nous permettre d'évaluer le taux d'oxygène, hein, puisque un des facteurs de gravité des compensations du Covid, c'est la détresse respiratoire, là. Puis des masques FFP2 s'ils devaient être évacués, de pouvoir se protéger les équipes qui viendraient leur apporter des secours.
Et puis avec la Covid, c'est un peu de féerie qui s'envole. Le jour du départ, seulement 9000 privilégiés seront le long du chenal pour accompagner les skippers. Rien à voir avec une édition normale. Un énorme regret pour le natif des Sables d'Olonne, Sébastien Simon.
Pour moi, le fait qu'il y ait moins de public, qu'on ne soit pas en mesure de montrer à nos partenaires et au grand public nos bateaux, ça me déçoit un peu. Et puis le fait d'entendre dire qu'il y aura que 9000 personnes au bord du chenal des Sables d'Olonne, bah, ça m'attriste, clairement. Même quelque part, les mots sont forts, mais le sentiment de me faire un peu voler mon Vendée Globe.
Une victoire quand même, malgré les contraintes, les inquiétudes et les angoisses. La 9e édition partira bien le 8 novembre. C'était loin d'être une certitude au cœur de l'été.
Encore une illustration que cette année est vraiment très particulière, Alexandre. Le reportage de Jérôme Val au Sable d'Olonne. On va terminer cette page sport avec un hommage aux gens qui tiennent leurs promesses.
Surtout quand c'est une promesse à sa maman. C'est l'histoire d'un champion du monde de MMA, sport de combat. Il s'appelle Khabib Nurmagomedov, il est russe et il a pris sa retraite cette nuit à 32 ans. Une superstar, invaincue en 29 combats. Mais sa mère ne voulait pas qu'il continue à combattre sans son père, décédé récemment des suites du coronavirus. Alors Khabib a promis un dernier combat et je m'en vais. Il a gagné par KO. Il est parti au plus haut. Promesse tenue.
Et vous aussi, vous partez au plus haut, Alexandre Berthaud. Merci beaucoup pour ce journal des sports.
France Inter. Olivier Bénis.
19h23 sur France Inter, on passe à notre agenda pour faire le point sur les moments forts de l'actualité à venir cette semaine. Lundi, à quelques jours maintenant de l'élection présidentielle américaine, on gardera un œil aux États-Unis sur le vote du Sénat. Il doit approuver la candidature de la juge Barrett à la Cour suprême, celle proposée par le président sortant Donald Trump pour remplacer la démocrate Ruth Bader Ginsburg. D'ailleurs, toute la semaine, la campagne américaine va battre son plein avant le scrutin prévu, on le rappelle, le 3 novembre. Au Sénat français, cette fois, on se penchera mardi sur une question écologique et agricole importante, les néonicotinoïdes. Les sénateurs doivent se pencher sur le texte les autorisant temporairement jusqu'en 2023 pour sauver la culture de la betterave sucrière au risque de tuer ce qui reste d'abeilles françaises. Le texte avait profondément divisé les députés, mais ça devrait passer plus facilement chez les sénateurs, plutôt favorables à l'agriculture plus qu'à l'écologie, Simon Le Baron.
Bien sûr, le tout nouveau groupe de 12 sénateurs écologistes va en profiter pour s'affirmer. La gauche également va voter contre. Pas question de rétablir cette saloperie, lâche crûment un élu socialiste. Mais la droite a déjà avancé ses arguments. L'urgence, c'est de sauver la filière betteravière et ses 45 000 emplois directs. Alors pour aller le plus vite possible, la majorité LR et centriste va adopter un texte très proche de celui présenté par le gouvernement et voté à l'Assemblée. Certains dans ses rangs auraient voulu aller plus loin en autorisant les néonicotinoïdes au-delà de 2023, jusqu'à ce que les scientifiques mettent au point un produit de substitution efficace. Le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, a dit non. Le projet de loi va donc passer sans encombre l'obstacle du Sénat, mais il risque, en l'état, de se casser les dents sur le Conseil constitutionnel. La commission des affaires économiques du Sénat a prévenu, en réservant ses dérogations aux seuls producteurs de betteraves à sucre, le texte pourrait bien être inconstitutionnel en vertu du principe d'égalité devant la loi. Le gouvernement est donc invité à revoir sa copie d'ici mardi.
C'est mardi aussi que l'on connaîtra le nom des finalistes du prix Goncourt et que débutera l'édition réduite du Festival de Cannes avec la projection de 4 longs métrages de la sélection officielle 2020, coulée elle aussi par l'épidémie de coronavirus. Mercredi, on va découvrir un outil de plus pour vivre avec ou malgré cette épidémie. Justement, les tests antigéniques rapides vont faire leur apparition dans les aéroports parisiens. Des tests censés permettre de savoir rapidement si un passager est porteur du virus ou non. Ils arriveront donc en milieu de semaine, c'est un peu plus tard que prévu et les tests seront réservés à certains passagers. Mais il faut bien dire, Philippe Lefebvre, que l'affaire était loin d'être simple.
Initialement annoncé pour demain par le président d'Aéroports de Paris, en fait, les tests rapides antigéniques ne devraient faire leur apparition que mercredi prochain dans les aéroports de Roissy et d'Orly. Dans un premier temps, ces tests seront réservés aux passagers se rendant dans les départements d'outre-mer, ce qui devrait tout de même représenter 1500 tests par jour à Orly et 500 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais on ne cachait pas ces dernières heures dans les aéroports parisiens que le système était difficile à mettre en place, car si effectivement il faut compter en moyenne 15 minutes pour obtenir les résultats du test, le gestionnaire de l'aéroport va devoir gérer les flux de passagers avant et après la phase de prélèvement et d'analyse dans le hall 3 d'Orly et dans le hall 2E de l'aéroport de Roissy. Et ça, c'est loin d'être simple. Enfin, Aéroport de Paris reconnaît également que la portée de l'opération sera limitée puisque 95% des destinations desservies depuis les aéroports parisiens ne reconnaissent pas encore le test antigénique et exigent toujours exclusivement le test PCR.
Covid toujours, mais au niveau mondial cette fois, puisque l'OMS fera officiellement le point sur la pandémie jeudi prochain. Et le même jour, ce sont les dirigeants européens qui vont s'entretenir à distance sur le sujet. Le tout dans un contexte, on le disait, de recrudescence généralisée du nombre de cas dans de nombreux pays, avec des mesures de restriction qui reviennent un peu partout également. On gardera aussi un œil sur ce qui se passe à Londres, où aura lieu jeudi une audience administrative sur la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis. Vendredi, c'est sur les conséquences économiques de la Covid qu'on en saura plus avec la publication des chiffres de la croissance européenne et de l'inflation dans la zone euro pour le troisième trimestre 2020. Et puis le week-end prochain, les Algériens voteront sur une révision de la Constitution. Ce sera aussi le début du recensement décennal dans le pays le plus peuplé du monde, la Chine. Et en France, pour revenir chez nous, ce sera la fin des vacances de la Toussaint, tout bêtement, et les deux derniers jours pour préparer le retour à l'école.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
On jette un œil vers le ciel avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
La tendance générale est autant agitée, médiocre et frais demain, voisine de 9 degrés au lever du jour. Les températures maximales en baisse ne vont pas dépasser 12 à 15 degrés. Le vent sera également partout de la partie, assez fort vers 70 km par heure. Il va souffler du sud, du Var à la frontière italienne, engendrant entre cette nuit et demain matin de fortes pluies d'orages sur la Provence. L'après-midi, ces fortes précipitations orageuses vont toucher l'ouest de la Corse. Sur le reste du pays, les averses assez dispersées en matinée vont prendre plus d'envergure en seconde partie de journée, laissant de moins en moins de place aux éclaircies. À noter une forte probabilité d'orage l'après-midi sur les régions de l'ouest et des chutes de neige à partir de 1200 mètres sur les Pyrénées, l'Auvergne et les Alpes.